Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille, ou même on vous conseille sur la façon dont vous abordez votre boulot. Bref, on prend soin de vous à tous les niveaux.
Alors comme chaque jour, on vous offre sur un plateau nos astuces feel good, nos meilleurs bons plans, mais aussi on vous écoute, on relaie vos questions, celles que vous nous laissez au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors si vous nous suivez comme chaque matin, on va démarrer par une question de notre vie quotidienne. Celle d'aujourd'hui, elle va plaire aux gourmands qui ont quelques kilos à perdre. Et si pour mincir, on mangeait du gras? Ça vous inspire, non Julien?
Oui, j'ai plus que 5 kilos à perdre, ça
Allez,
va.
Allez, pour ce décryptage sur ce qu'est finalement le régime cétogène, notre invitée, ce sera la médecin nutritionniste Catherine Lacronière.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, un petit nouveau fait son entrée chez nous, c'est Édouard Dutour qui est journaliste pour le magazine Elle. Il va venir nous expliquer pourquoi la mode est au moulin chez les jeunes hommes actuellement. Et puis, Soizic Belin, notre experte loisirs, nous fera replonger en enfance avec les jouets à la mode dans les cours de récré en cette rentrée 2021.
Et enfin, Julia, dès midi, dans la partie santé de cette émission, on va parler des grands oubliés de notre santé, justement, nos pieds. On fera le tour des petits problèmes qui peuvent les concerner, ainsi que des astuces pour en prendre soin. Pour cela, Jamel Bouhabib sera avec nous. Il est podologue et président de l'Union française de la santé du pied.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine positif, pour vous faire du bien à vous et à vos proches dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Et donc Mélanie, comme tous les matins, on va démarrer par notre question du jour, je vous la donne. Et moi, elle me plaît beaucoup. Et si pour mincir, on mangeait du gras?
Ah Julia, ça donne envie, dit comme ça, le gras, le beurre, la crème, ou encore mieux, l'huile d'olive, c'est délicieux, mais pas vraiment associé à l'image d'un corps svelte et affûté. Et justement, puisque je parle de corps affûté, eh bien
bonjour,
il est là. Elle était facile celle-là. Voilà, bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde.
Je suis sûr que ça vous inspire, hein, le gras pour mincir, tout ça.
Je suis comme Julia, ouais. J'ai adoré la question. Ouais. J'attends avec impatience la réponse, puisque je ne suis pas allé voir sur Internet. Peut-on mincir avec du gras? J'aurais pu avoir la réponse ou des réponses. Je suis allé directement à la rencontre des Français. J'ai eu des avis tellement différents. Ce qui est marrant, c'est qu'avec cette question, tout le monde s'improvise nutritionniste.
Ah.
Notamment ce jeune homme qui n'était pas convaincu, lui.
Maigrir en mangeant du gras, ouais, c'est compliqué. C'est un peu comme faire du ski sans ski, monter une falaise, mais sans basket, c'est compliqué. Donc, non, il faut pas manger de gras. Aller de temps en temps et encore... il faut faire du sport un peu tous les jours. Une demi-heure, vous faites de l'exercice, un peu de pompe, d'abdos, un petit footing, et ça ira très bien. Et vous mangez pas trop le soir.
Okay.
Ça sert à rien. Pour dormir, pas besoin de trop de calories. Ah, et si vous voyez que vous avez beaucoup de graisse un petit peu et qu'il part pas comme ça, les poignées d'amour et tout, vous la pincez un petit peu, votre graisse.
Ouais,
en fait, la graisse, c'est une cellule morte. Donc, quand vous la pincez, ça la réanime. Ouais, ça la réanime. Ouais, ça la fait vivre. Allez, et elle disparaît. Elle repart dans l'organisme.
Donc je
précise. Vrai scientifique, hein.
Toutes les personnes que j'ai interrogées, alors ce n'est pas leur métier. J'ai pris vraiment des personnes au hasard. Lui, il n'était pas convaincu. Ça m'a rendu un peu triste. Et puis après, je suis tombé sur cette personne. J'espère qu'elle a raison parce qu'apparemment, selon elle, on peut et il faut manger du gras.
Il faut manger du gras en fait. Il faut manger gras. Et il n'y a pas qu'une sorte de gras. Il y en a plusieurs. Il y a le gras industriel où il y a tous les conservateurs, le gras trans, je sais pas trop quoi. Mais il y a un autre gras, tout ce qui est huile, les huiles d'olive, les huiles de noix, tout ça, c'est hyper bon pour la santé en fait. Il faut ça pour que le corps ait pu se régénérer, mais c'est le sucre en fait qui fait grossir. Et dès qu'on mélange du sucre avec un peu de gras, c'est là où il y a tout qui part en réserve.
J'espère qu'elle a raison, on verra dans un instant.
Ça fait un Kuhn-Yaman, non?
Le sucre plus gras, il paraît que c'est très mauvais, on verra
c'est
ça tout à l'heure.
C'est la fin du Kuhn-Yaman.
Non, il faut quand même, modérément, mais il faut manger de tout évidemment. J'ai croisé aussi une personne qui m'a déculpabilisé sur le resto que je vais me faire ce midi.
Un jour, mon nutritionniste m'a dit qu'il préférait que je mange un steak frites plutôt que de sauter un repas. Moralité, ça doit pas être si grave de manger gras.
Je sais pas, je vois les visages à côté, je me dis peut-être que ça c'est n'importe quoi, on va voir. Quelle est la meilleure technique pour maigrir? Alors je suis allé voir une jeune maman qui a d'ailleurs eu du mal à perdre ses kilos. Elle nous en parle, ce qui est compliqué quand on fait des reportages comme ça, c'est quand le bébé est à côté.
La solution pour maigrir, alors là ça m'intéresse. Dans mon cas, j'ai accouché d'une petite fille il y a un an. J'ai jamais réussi à perdre mes kilos de grossesse. J'ai pourtant essayé un régime qui s'appelle le régime dissocié, c'est-à-dire ne jamais manger des féculents et des protéines ensemble. Donc c'est... je sais juste aussi que dans mon cas, il y a un truc très perso qui s'est passé, c'est que... Salut, ça c'est bébé. Je continue l'allaitement et le moment où j'ai failli arrêter l'allaitement, j'ai commencé à perdre vraiment rapidement quelques kilos et dès que j'ai repris l'allaitement, ils sont revenus.
C'est ça, j'aurais dû allaiter jusqu'à 12 ans en fait.
Et voilà, il faut que je me mette à allaiter, c'est quand même très gênant. Et donc la dernière que j'ai rencontrée, il m'a quand même un peu déprimé parce que pour les hommes en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un fond de vérité.
Je pense que jusqu'à 20-25 ans, on peut se permettre de manger un peu ce qu'on veut, McDo, tacos tous les jours sans problème. Après, jusqu'à 35 ans, faut commencer à faire gaffe. Et puis, à 40 ans, par contre, là, c'est chaud. Si tu fais pas de sport, tu grossis juste en regardant les frites.
Voilà. Bien résumé. C'est
j'ai
très
l'impression,
mignon.
On verra si c'est vrai ou
je
pas.
Pense, ça doit peut-être marcher pour les femmes aussi. Hein, ouais. On verra.
Je sais pas, je me permettrai pas.
Merci beaucoup, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain pour encore d'autres témoignages et toujours plus de bonne humeur pour nous et pour nos auditeurs. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Vous nous faites du bien, Clément.
J'adore, mais je vous retourne nos compliments. C'est un plaisir d'être là. J'adore.
Ah, bah tant mieux. Alors,
mais si vous pouviez me faire maigrir en plus, ce serait super.
Restez avec nous. Alors tout de suite, on accueille justement notre invité du jour. Eh bien, c'est vous, docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Julia. Bonjour Mélanie.
Docteur Lacronière, vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors d'abord, notre question du jour, elle peut paraître un peu impertinente ou au contraire complètement mensongère. Et si pour mincir, on mangeait du gras? Mais en fait, là, d'un point de vue littéral, quand on dit ça, c'est juste du régime cétogène, le fameux régime cétogène dont on parle. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Mais ça peut être aussi un régime qui n'est pas aussi strict que le cétogène, qui est le régime pauvre en sucre, en glucides, qui est quand même moins compliqué à faire. Et puis, l'une des auditrices le disait très bien, il y a gras et gras, et il faut du gras pour vivre. Et on peut également imaginer qu'on peut manger du gras pour maigrir.
Le gras, c'est la vie, c'est ça. Hein.
Mais c'est le vrai problème, c'est que tout ce qui est bon à chaque fois, enfin, en termes de goût, je trouve, c'est les pires choses. C'est ce qu'on nous déconseille quand on va voir des personnes dont c'est le métier.
Alors justement, Clément, les choses changent.
Ah.
Voilà, donc on va réhabiliter les graisses aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans les années, il y a une vingtaine d'années, tout le monde disait, les Américains en premier, il faut supprimer le gras. Et on s'est rendu compte que non, il y a gras et gras encore une fois, et il en faut.
Et parfois il y a du bon gras. Alors pour qu'on comprenne bien justement la différence, d'habitude une alimentation classique est divisée en combien de pourcentage de glucides, donc du sucre, de protéines et de lipides, le gras? C'est
alors,
quoi
les glucides sont la principale source d'énergie du corps, c'est entre 40 et 55% des calories journalières. Les lipides doivent être entre 35 et 40% et les protéines 15 à 20%.
Et dans le cas du régime cétogène, ça donne quoi?
Eh bien, on va couper pratiquement tous les glucides. On va se retrouver à 5-10% grand maximum de glucides.
De sucre, donc.
Voilà,
hein, ouais.
Tout à fait. Donc, il faut bien que l'énergie soit amenée par autre chose et on monte beaucoup l'apport en graisse sans pour autant trop monter l'apport en protéines. Ça n'est pas un régime hyperprotéiné.
Vous avez dit le sucre, c'est le carburant de l'organisme. Donc là, ça veut dire qu'on change de carburant et que donc le corps va manquer de sucre. Et il va se produire quoi dans le fonctionnement du corps justement à ce moment-là?
Alors comme il faut bien amener du fuel entre guillemets, eh bien il va y avoir une transformation de ces graisses avec un métabolite intermédiaire qui s'appelle les corps cétoniques qui sont fabriqués par le foie. Et ce sont ces corps cétoniques que le corps va utiliser à des fins énergétiques.
Bon, docteur Lacronière, on vous reste avec nous. On va poursuivre cet éclairage sur le fameux régime cétogène, pardon, très à la mode le régime cétogène. En gros, mincir, maigrir en misant sur le gras, en disant au revoir au sucre, ça a l'air de fonctionner, en tout cas chez les actrices américaines au moins, mais est-ce sans danger? On va tout vous expliquer. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine tourné uniquement sur le positif, dans lequel on vous donne le plus d'outils possibles, de conseils pour être bien dans votre tête et dans votre corps. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Notre question aujourd'hui, c'est et si pour mincir, on mangeait du gras?
Alors Mélanie, moi je
sais pas
vous.
Vas-y, comment j'ai dit gras, gras,
du gras, c'est bon le gras. Mélanie, moi je ne sais pas vous, mais affiché de cette façon, c'est vrai que c'est assez séduisant pour la gourmande que je suis. Alors pour nous aider à y voir plus clair et surtout à ne pas faire du mal à notre corps, elle est toujours avec nous, c'est Catherine Lacronière, docteur Catherine Lacronière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors, on a expliqué le principe rapidement juste avant de ces régimes dits cétogènes. En gros, on enlève le sucre et le corps se met à utiliser notre propre graisse comme carburant. Ça, ok, on a compris. Il paraît qu'il se met en cétose. Bon, vous nous expliquerez de quoi il s'agit, mais surtout, au bout de combien de jours ça démarre cette cétose?
Alors ça ne démarre pas tout de suite, il faut au moins 72 heures pour que justement le corps change de carburant. Et cette période-là, elle peut être plus ou moins mal vécue. On parle parfois même de grippe cétogène. Des gens vont se trouver nauséeux, même un petit peu le nez qui coule. On n'est pas bien hein, parce que le corps n'est pas habitué à ce nouveau carburant.
Incroyable. C'est nouveau vraiment ces régimes basés sur une alimentation cétogène, donc zéro sucre, plutôt du gras, du bon gras, on détaillera après, mais parce qu'on a l'impression qu'on entend parler de ce type d'alimentation, de mode d'alimentation, finalement de manière assez récente, depuis quelques années, notamment via des influenceuses ou des actrices américaines surtout, qui mettent ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ça vient d'où? C'est arrivé quand ces régimes-là?
Alors en fait, c'est très ancien, ça a plus de 100 ans. Ah, c'était oui. utilisé au niveau hospitalier pour les enfants, même pour les épileptiques en règle générale, mais surtout les enfants, qui n'avaient pas de récepteurs au glucose au niveau du cerveau et qui donc convulsaient. Et on s'est dit qu'en changeant de carburant, en leur donnant justement ces corps cétoniques issus des graisses, eh bien, les convulsions se calmaient. C'est ce qui a marché. Et puis, sont arrivés dans les années 50, les médicaments contre l'épilepsie, donc le régime cétogène est tombé en désuétude, jusqu'à revenir, d'abord pour plusieurs raisons, certains enfants aujourd'hui sont résistants aux médicaments contre l'épilepsie, donc on le reprend pour ça, mais là attention, hein, on parle d'un régime qui est mis en place,
encadré médicalement, voilà, bien sûr.
Tous les grammes sont comptés, enfin c'est vraiment très très précis.
Et c'est pas à ces patients-là qu'on s'adresse du tout aujourd'hui.
Non, hein. mais c'est vrai que ces dernières années, cette alimentation, c'est assez récent, hein, a repris vigueur, entre guillemets, et on en parle pour perdre du poids, on en parle aussi pour limiter ou accompagner certaines maladies neurologiques.
Alors justement, la question, c'est que, bon, à part pour les épileptiques, on a compris hein, que ça marchait bien, hein, apparemment, ce régime-là, pour eux, même si c'est tombé un peu en désuétude parce que les médicaments ont pris le relais, mais autrement, pour qui ça s'adresse? Qui veut faire du cétogène?
Est-ce que pour Julia, c'est bien?
Oui,
c'est ça qu'elle veut savoir.
Bon, alors Julia, elle a besoin de rien du tout.
Bien sûr,
voilà.
Ouais.
Non, mais je vais être réinvitée.
Mais bien sûr, je suis comme beaucoup de Françaises et Français. J'ai toujours ces fameux 3-4 kilos qui m'agacent, sur lesquels je suis assise actuellement. Comment je fais pour les perdre?
Alors, pourquoi pas? Simplement, il faut savoir que c'est quand même un régime restrictif. Et qui dit régime restrictif dit stabilisation plus compliquée.
Et vous n'allez pas vous amuser, apparemment.
Voilà, parce qu'en fait, rester au régime cétogène pour le long terme, certains le font, mais c'est très compliqué, ça vous coupe hein, de la convivialité, parce que c'est fini, les pâtes, les pizzas, le pain du matin, oui, vous pouvez faire la grimace, c'est terrible.
Les gâteaux, pas pour vous,
et puis même, la plupart des fruits et beaucoup de légumes, donc on est loin d'un régime dit équilibré, on peut avoir des insuffisances, voire des carences, donc c'est à bien réfléchir avant, mais c'est vrai que quand on le fait, ça marche bien.
J'allais vous le dire, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. C'est très populaire parce que les résultats sont parfois spectaculaires, il faut l'avouer. On peut perdre très rapidement du poids avec ces régimes dits cétogènes, plus vite d'ailleurs qu'avec les régimes classiques, non, j'ai l'impression. De l'ordre de combien? On perd combien en combien de temps en moyenne, on va dire?
Alors c'est toujours difficile de dire ça, mais c'est vrai qu'on a remarqué. Alors sur du long terme déjà, ça va être décevant parce que c'est 1 kilo de perdu supplémentaire par rapport au reste. Alors ce qu'on appelle le long terme, c'est au bout d'un an par exemple. Sur le court terme, on peut perdre assez rapidement.
En un mois, 4 kilos, c'est possible.
On peut faire ça, oui, mais vous savez que les nutritionnistes font toujours attention à éviter ce genre de choses, parce que vous allez perdre 4 kilos et vous risquez d'en reprendre 5 le mois d'après.
Le yo-yo est violent.
Il vaut mieux perdre doucement, mais sûrement. Alors, on a compris un régime qui peut donner rapidement des résultats d'amaigrissement assez incroyables, mais qui n'est pas sans danger. D'ailleurs, vous conseillez, je crois, avant de se lancer dans ce régime, de faire une prise de sang, pourquoi?
Alors de faire un bilan, parce que c'est vrai que certaines personnes ont des contre-indications au régime cétogène. Quand on mange du gras comme ça, on va possiblement augmenter son taux de cholestérol. Donc si on a déjà...
Et pas le bon, pas le bon cholestérol.
Exactement, le mauvais. Donc si on a à la base une hypercholestérolémie, on va éviter. Les gens qui ont des maladies lourdes, hein, des maladies du foie, des maladies du rein, les diabètes de type 1 aussi, tout ça, c'est contre-indiqué.
Les diabètes de type 1, c'est quoi? C'est les insulinodépendants?
Les insulinodépendants, c'est le diabète génétique, bien que on va, avec cette alimentation cétogène, améliorer la glycémie. On est, quand on a un diabète diabète de type 1 dans une maladie qui doit être suivie au niveau de l'hôpital et il ne faut pas s'amuser avec son alimentation.
Très bien. Docteur Lacronière, on est dans le concret ici et d'ailleurs on répond aussi aux questions de nos auditeurs. On a par exemple Olga, 42 ans, sur la page Facebook d'Europe 1 qui a testé, dit-elle, le cétogène mais dit que dans les premières semaines, ça a été horrible. Elle a beaucoup perdu de poids mais par contre avait l'impression d'avoir une grosse grippe. Vous en parliez tout à l'heure. C'est quoi les symptômes et pourquoi il y a ces soucis-là, ces tracas-là?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand vous supprimez les sucres, vous allez, assez étonnamment, vous allez éliminer beaucoup d'eau. Et quand vous éliminez de l'eau, vous éliminez également des nutriments. Vous allez perdre énormément de sel. L'autre raison, c'est que, ça c'est une bonne chose entre guillemets, le régime cétogène fait que vous n'allez pas manger d'aliments ultra transformés du commerce qui sont eux très riches en sel, donc vous aurez moins d'apport de sel. Vous allez me dire tout ça c'est une bonne idée,
ouais, plutôt.
Mais l'extrême n'est pas bon non plus, vous perdez trop de sel et ça peut être aussi en cause dans les signes que décrivait cette auditrice. On peut également voir des petites éruptions, ce qu'on appelle des rashes, parce que l'évacuation...
Sur la peau, hein, donc,
oui, tout à fait. L'évacuation des corps cétoniques au niveau de la peau dans la transpiration on peut donner ces petits boutons désagréables. Et puis, il y avait, ce qui était très bien décrit, une grande fatigue.
Ça fait envie, hein, franchement, j'ai hâte de m'y mettre.
J'ai oublié de vous parler de la nausée. Voilà. Ah, voilà. Oui, mais enfin, ça ne dure pas très longtemps non plus. Hein,
ouais.
Mais
donc ça, c'est les 72 premières heures.
Ah, non, ça, c'est un petit peu plus pour ces signes-là, malheureusement.
C'est les 72 premiers mois. Non, c'est quoi?
C'est au moins une semaine.
Au moins une semaine, d'accord. Moins. Alors, vous en parliez à l'instant, on a forcément des carences quand on suit ce régime qu'on va détailler vraiment en pratique après, mais vous conseillez de prendre certains compléments alimentaires si on suit ce programme, lesquels?
Alors, il faut complémenter puisqu'on n'a que très peu de fruits et de légumes, donc on n'a pas la plupart des vitamines et des minéraux, donc il ne faut pas hésiter à complémenter pour... Il y a très peu de vitamine C, par exemple, dans cette alimentation, et puis il n'y a pas de fibres. Et qui dit pas de fibres, dit des problèmes de transit, donc risque de constipation.
Alors, franchement, on a des boutons, on est constipé, on a la diarrhée, on a mal à la tête, mais on maigrit.
Mais on est mince.
Voilà. C'est génial, ça vaut le coup. Hein, bon, et puis vous prévenez que le premier risque avec ce type de régime très restrictif, c'est qu'on va tout reprendre, en fait. Vous le dites, c'est ça souvent. Enfin, c'est pas obligatoire, à moins de le maintenir toute la vie, mais très souvent, il y a le yo-yo derrière, c'est inévitable.
Alors, il y a une manière de faire quand même pour éviter ça, mais c'est vrai que si vous le faites seul, non accompagné, sans connaissance, et que vous suivez, un programme, un menu, et que vous repartez à votre vie d'avant, eh bien, vous allez tout reprendre, oui. Si, en revanche, c'est peut-être le moment pour faire une transition et de manger après un peu moins sucré que ce que vous mangez avant,
ça c'est bien.
Eh bien, pourquoi pas.
Oui, ça peut être un peu éducatif. Hein, Julia, vous savez quoi, je vais vous rajouter une autre réjouissance avec ce régime. En plus, on pue de la bouche.
Ah bon?
Comme avec le régime hyperprotéiné?
En fait, parce que les corps cétoniques donnent une mauvaise haleine. Ça, c'est assez terrible. Ouais.
Mais moi, je crois que j'ai gardé mes kilos, hein, franchement. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites sur au moins. Le cétogène, bon, ça a l'air d'être super si on est très motivé et qu'on veut perdre rapidement. Mais après tout, on peut peut-être aussi le faire sur une courte période. Pour assainir un peu son corps, qu'on aurait gorgé de sucre, comme certaines présentatrices d'émissions télévisées qui mangent des gâteaux en veux-tu en voilà.
Alors, par exemple.
Jusqu'à 48 en deux jours.
Celles qui n'ont pas de chance de travailler pour une émission diététique, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il y a des vrais accros au régime cétogène qui vont le poursuivre sur de long terme. Mais je pense que c'est une possibilité, un moyen de manger moins de sucre. En effet, trop de sucre, ça n'est pas bon non plus.
Alors, c'est vraiment votre ennemi, le sucre. Hein. Vous n'aimez pas ça.
C'est pas ce que je préfère. On a besoin de glucides, mais ce qu'on appelle les sucres avec des faibles pouvoirs sucrants qui vont se mettre en réserve dans le foie, dans le muscle et qui nous permettent de fonctionner. Ça, il ne faut pas l'oublier. On avait dit au départ, les glucides sont la principale source d'énergie du corps. Mais il y a sucre et sucre, là aussi. Et les sucres avec index glycémique élevé. Donc, c'est sûr que si vous vous nourrissez de gâteaux tous les jours et de bonbons, bien, vous aurez d'autres soucis, à commencer par la prise de poids et l'augmentation du taux de sucre dans le sang. C'est après diabète.
Bon, docteur Lacronière, on reste encore un peu ensemble. On va le détailler quand même un peu, ce régime cétogène, même s'il n'est pas sans danger. Ça, on l'a compris désormais. Alors, comment ça se passe très concrètement dans l'assiette, ce gras qui fait maigrir? On y revient dans quelques toutes petites minutes. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine bien-être, mieux vivre, dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive, pour vous et même pour vos proches. Et ce matin, on se pose cette question, je le rappelle, et si pour mincir, on mangeait du gras?
Exactement Julia, alors vous qui nous écoutez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et je rappelle que pour tout nous expliquer sur ces régimes cétogènes, puisque maigrir en misant sur le gras avec moins de sucre, bah, ça revient un petit peu à ça en fait, c'est le docteur Catherine Lacronière qui est avec nous dans ce studio, médecin nutritionniste. Alors justement docteur, comment ça se traduit dans l'assiette au quotidien, ce régime cétogène? Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Là, on va parler vraiment d'aliments, hein, concrètement. Zéro sucre, ça veut dire quoi? Même pas de féculents, même pas de pâtes, par exemple?
Non, malheureusement, plus de pâtes, plus de pain.
Pas de riz non plus?
Non, plus de riz, plus de légumineuses, hein, pas de lentilles, de pois chiches, non.
Même complet, même le pain complet, non, même les pâtes complètes.
On est au-delà du taux de glucides autorisé. Et ce qui est assez embêtant aussi, c'est que il y a une forte diminution des fruits, très peu de fruits. Vous avez les fruits rouges, vous avez la papaye et le citron en ce moment, ça s'arrête
manger
là.
Manger un petit citron en dessert, hein, Julia, c'est super.
Ça va être l'éclate.
Et les légumes, tous ceux qui vont être riches en sucre, plus riches en sucre, parce qu'ils sont quand même pas si riches que ça, mais adieu la carotte, la betterave, le potiron, la patate douce, pour aller vers des légumes plutôt verts, à feuilles, des épinards, de la salade, des choux, voilà. Non, c'est sûr que le choix
le
est quand même
bien,
très
restreint. Hein, vous le vendez
oui,
bien.
Pas, vous avez remarqué.
Voilà. Heureusement que ça marche, voilà. Hein, votre truc.
Et les produits laitiers, parce que dans le lait, il y a un sucre qui s'appelle le lactose. Donc, on déconseille hein, le lait, on déconseille les yaourts et les fromages mous qui contiennent encore du lactose.
Les brebis même, on ne peut pas le brebis?
Il y a un petit peu de lactose dans la brebis. Il y en a quand même beaucoup moins hein, que quand on fait les fromages
le
de vache.
Le soja nature,
non, le soja, ça va, c'est autorisé. Ah. Voilà, ça, le soja. Et,
Julia, voilà. Du soja et un citron, franchement.
Ah non,
voilà.
Et puis des protéines sans excès néanmoins, mais on peut prendre de la viande, du poisson, et puis pour une fois eh bien, on peut prendre des viandes un peu plus grasses. Mais on parlait tout à l'heure des gras. Ce qu'il faut, c'est essayer d'améliorer le rapport des ce qu'on appelle les oméga 6 sur les oméga 3. Alors les oméga 6 et les oméga 3 sont deux familles d'acides gras essentiels. Ça veut dire qu'on est obligé de le trouver dans l'alimentation, mais il se trouve que l'alimentation des Français est trop déséquilibrée vers les oméga 6 et que ça va favoriser les maladies cardiovasculaires. Donc il faut qu'on rééquilibre 4 oméga 6 pour 1 oméga 3, et donc il faut trouver les oméga 3 dans notre alimentation, et on va les trouver dans les oléagineux, dans les graines par exemple, dans des huiles végétales. Donc ça c'est un bon côté de l'alimentation cétogène.
Donc on passe à l'huile végétale
ou alors on peut avoir un peu de beurre, mais c'est vrai qu'on va favoriser les huiles. On peut avoir un petit peu de crème, mais ça va pas être l'essentiel.
C'est pas l'huile d'olive hein, la plus riche en oméga 3, c'est plutôt huile de lin, huile de caméline, hein, si je me trompe
voilà,
pas, ces choses-là.
Voilà, l'huile de colza, il y en a aussi dans l'huile de noisette, l'huile de noix, oui, donc c'est en effet pas... Dans l'huile d'olive, qui est la reine hein, du régime méditerranéen, il y a des acides gras monoinsaturés qui sont d'autres acides gras aussi bénéfiques pour la santé et la prévention cardiovasculaire. De toute façon, en nutrition, on dit qu'il faut varier les huiles. Ben là, dans le cétogène, on peut aussi varier
le
les
gras.
Huiles.
Et on peut varier le gras, c'est ça qui est bien. On peut passer au fast-food, au kebab. Ah oui, c'est du gras. Ça.
Julia, vous n'avez rien écouté. Voilà.
Donc ça marche pas, kebab et tout, c'est gras pourtant.
Non, on va préférer les avocats. Et,
ah bah alors justement, je voulais vous en parler. Coco. Pourquoi on voit toutes ces influenceuses avec un avocat à la main depuis des années.
Mais elles n'ont pas si tort que ça.
Ou des petites tartines de pain keto avec avocat, œuf.
Exactement.
C'est le truc qu'il faut manger, j'ai l'impression.
Voilà, parce que l'avocat, eh ben, c'est du gras, mais c'est entre guillemets, on déteste dire ça, mais c'est du bon gras. Ce sont des acides gras monoinsaturés, bénéfiques pour la santé. Et vous le disiez, Mélanie, sur du pain keto, parce que le pain, c'est l'autre, c'est terminé, mais ce pain keto qu'on fait à base de poudre d'amande ou de farine de coco, eh ben, il est bon.
Et ça s'achète tout près aussi, hein, ces trucs-là, mais dans l'industriel, il n'y a pas que du bon.
Ça,
hein, je
ne l'ai pas trouvé en tout près. Je crois que... Et puis c'est assez facile à faire, hein, c'est quelques minutes de préparation. Simplement sur votre avocat de toast, eh ben, vous n'allez pas pouvoir mettre de grenade ou autre, mais vous pourrez mettre des graines, vous pourrez mettre voilà, des graines de courge, des graines de lin, qui est très riche en oméga 3. Donc on peut garder la convivialité quand même hein, avec cette alimentation, à condition de cuisiner un petit peu quand même.
Donc ça, c'est le petit-déj, hein, si j'ai bien compris.
Ouais.
Tout à fait. Génial, on va faire comme les Américaines, Mélanie, vous êtes d'accord?
Allez.
Vous voulez pas?
On testera.
Ah ouais, on va essayer. Alors, qui dit zéro sucre, et ça commence à me paniquer, ça veut dire pas de chocolat, rien?
Alors, un petit peu de chocolat noir, si, très riche en poudre de cacao, mais sans excès non plus. Hein.
Ça veut dire quoi, très riche?
Au-delà de 85% de
mais
poudre
c'est pas
de
bon,
cacao.
Non. Soyons d'accord, moi, le trop élevé, j'adore. C'est voilà. Trop amer.
Non, non, je suis pas d'accord avec vous, Mélanie. Il faut aller chez un très bon chocolatier pour le goûter, voilà. Pour
moi, j'aime que le chocolat blanc, ça marche pas.
C'est raté. D'abord, je sais même pas comment on peut l'appeler chocolat, celui-là.
C'est vrai, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'êtes pas une puriste. Non, le chocolat blanc, c'est même pas du chocolat.
Il y a du sucre, c'est surtout qu'il y a beaucoup de sucre dans ce chocolat. Parce que,
bon, et du gras, on a dit qu'on aimait le gras.
Oui, mais on a dit qu'on aimait moins le sucre.
Ah bon, d'accord. Alors, j'avais quand même une question, parce que là, on a parlé du petit-déj, mais par exemple, pour le déjeuner et le dîner, on a le droit aux viandes et poissons à volonté ou c'est limité?
Alors, on a le droit aux viandes et poissons en les consommant correctement, modérément, puisqu'on a dit que c'était pas un hyperprotéiné, donc on va pas se faire un poulet entier avec la peau, mais on va l'associer avec des légumes, avec des oléagineux, avec de l'avocat et un petit filet de...
Les portions sont pas énormes dans ce régime-là, parce que je pensais qu'au moins les protéines c'était à volonté. Alors, parce écoutez, que si c'est un petit peu de poulet sans peau...
C'est des portions normales, ouais. Voilà, parce qu'il faut rappeler aussi une chose, c'est que le régime cétogène peut être proposé pour certaines pathologies, on est en train d'en discuter pour certains cancers, et là il est hors de question de faire maigrir les personnes, donc c'est pas un régime forcément qui sera réduit en quantité, mais on va faire des quantités normales, disons, sans excès, et puis on va rajouter des aliments qui ont ces bons gras.
Alors, on a ce message via Twitter, je le rappelle, n'hésitez pas sur le hashtag Europe 1, ce message d'Andrea, qui demande, puisque dans ce régime cétogène, on peut se gaver de protéines, pas se gaver, hein, on a vu, mais manger des protéines animales, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le corps de manger justement autant de viande? Est-ce que, franchement, comme on mange moins de sucre, forcément, on mange un peu plus de viande ou de... Est-ce que c'est pas...
Alors, ce n'est pas un régime carnivore, c'est riche en viande, ça n'est pas un régime hyper protéiné, parce qu'on le sait, ces régimes très riches en protéines ont des effets secondaires au niveau du rein en particulier. Les gens qui ont une insuffisance rénale ne peuvent pas manger autant de protéines, mais c'est pas le but du régime cétogène d'apporter autant de protéines. On sait que l'alimentation, c'est 15 à 20% d'apport protéiné, donc on le fait. Le problème là, ça va être par exemple pour les véganes.
Ah bah alors comment ils font cela?
Ah bah les véganes purs, ils peuvent pas faire de régime cétogène. Les végétariens le peuvent parce que ils vont pouvoir manger du poisson, ils vont pouvoir manger du fromage. Mais comme on supprime toutes les sources de protéines végétales qui sont amenées par les légumineuses, c'est compliqué. Il reste néanmoins des protéines végétales dans des oléagineux. Les amandes, par exemple, il y a du gras, mais il y a des protéines végétales aussi. Mais enfin, c'est quand même...
On
peut pas être végane et faire une alimentation cétogène.
Docteur Lacronière, un truc important avec ce régime, vous dites, je crois que pour ceux et celles qui sont encore tentés, après tout ce qu'on a dit, de se lancer dans cette aventure, il faut impérativement, quand on le fait, boire beaucoup, même plus qu'avant, de l'eau, bien sûr. Hein.
Oui, il faut beaucoup boire. D'abord, on l'a dit au début, il y a une grande perte de fluide, donc et il faut beaucoup, beaucoup boire. D'ailleurs, ça permet de limiter un petit peu ces fameux symptômes de la grippe cétogène dont on a parlé.
Parce qu'on est un peu déshydraté, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Et il faut également amener les micronutriments. Donc, il faut amener, on perd du sodium, on perd du potassium, on perd beaucoup de magnésium.
On peut peut-être boire de l'eau pétillante un peu salée, là, non? Quand on fait le cétogène.
Ça pourrait être une idée. Oui. Sinon, dans les eaux plates avec des nutriments, il y en a une qui pourrait être conseillée. Mais le problème, c'est que, elle lutte contre la constipation, donc si on a déjà
avec transit.
Voilà, mais il faut quand même, c'est une bonne idée, ces eaux enrichies, enfin riches naturellement en micronutriments, en magnésium, en calcium. On risque aussi d'avoir un problème sur le calcium, puisque on va consommer moins de produits laitiers de vache. Enfin, il reste quand même les fromages pâte dure.
Oui, il faut complémenter, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors j'imagine, on ne peut pas boire d'alcool, même pas un tout petit verre. De toute façon, on sait qu'il faut toujours boire avec modération, on le précise.
Un verre par jour, pas tous les jours.
Alors, est-ce qu'on peut boire un verre par jour, mais pas tous les jours?
On peut faire ça, voilà. Oui, avec le régime cétogène, on peut.
D'ailleurs, je crois que c'est deux verres par jour, hein, mais bon, avec le cétogène, c'est zéro, je crois.
Alors, c'est entre zéro et un, grand maximum. C'est un temps en temps, quand on a envie de se faire plaisir. Parce qu'il y a du sucre dans l'alcool, il ne faut pas l'oublier. Mais si vous prenez un vin rouge, riche en tanin, tout à fait, c'est possible, ça fait partie...
Pas de champagne
c'est pas ce qui est marqué. Hein. Normalement, c'est plutôt le vin rouge et encore moins de cocktails avec des jus de fruits rajoutés.
Bien sûr. Bon, moi, je crois que définitivement, c'est pas pour vous, Julia Vignali.
Non, comment savoir, docteur Lacronière, au fait que ça y est, c'est bon, vous avez dit, il faut atteindre ce stade de cétose à un moment donné, au bout de 3-4 jours. Comment on sait qu'on est dans l'état recherché? Parce qu'il faut obtenir cet état de cétose pour le lancer, que le corps se mette en route dans ce régime cétogène.
Alors déjà, il y a une bonne nouvelle là, qui est une nouvelle clinique, c'est-à-dire que les corps cétoniques, ça vous coupe l'appétit.
Ah,
donc
oui,
d'un
bon,
coup,
plus,
voilà. Vous avez moins faim, voilà, et ça va être plus facile de manger. Mais si on veut vraiment savoir si on est en cétose, il y a des bandelettes urinaires qui vont vous montrer la présence de corps cétoniques dans les urines. Et là, oui, c'est vrai, s'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas atteint la cétose et que vous mangez encore trop de sucre.
Oh là 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 là. Alors généralement, j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup cuisiner si on veut se mettre au régime cétogène. On ne trouve rien en grande surface qui soit céto-compatible.
Dans la nourriture industrielle, en tout cas.
Ouais. Oui, bah ça c'est quand même une bonne chose, hein, de régime cétogène, de plus cuisiner, de ne plus utiliser les aliments ultra transformés du commerce, qui sont riches en graisse, mais pas celles qu'on voudrait, et en plein d'autres choses qu'on ne veut pas non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut cuisiner, mais ça peut être facile. Hein.
Ouais.
On a des recettes de pizza entre guillemets, cétogène.
Ouais, entre guillemets, j'ai l'impression.
Oui, entre guillemets. Oui, tout à fait.
Au soja, enfin, ça a l'air super bon.
Bon, bah, très bien, on attend vos recettes, hein, docteur. Je vais peut-être m'y mettre. Vous voulez le faire avec moi, Mélanie?
Non, c'est pas la peine. Merci.
Merci beaucoup, docteur Lacronière, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci en tout cas pour tous vos conseils. Et à présent, Mélanie, je crois que c'est l'heure, hein, l'heure de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Et oui, Julia, on va accueillir dans ce studio dans un instant nos deux chroniqueurs du jour. Notre nouveau dans la fine équipe de Bienfait pour vous, Édouard Latour, qui va nous parler de cette mode du moulant chez les jeunes hommes actuellement. Et puis, Soizic Belin, elle aussi, elle sort tout juste d'une cour de récréation et va nous expliquer quels y sont les jeux à la mode en cette rentrée 2021. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, c'est votre nouveau magazine positif. Ici, on vous livre tous nos conseils, nos bons plans pour prendre soin de vous et de tous ceux qui vous entourent également. Et donc maintenant, Julia, on va lancer la séquence tendance de ce magazine.
C'est tout à fait ça, Mélanie. Vous suivez bien, bravo.
Merci, hein.
Et justement, pour commencer, Soizic Belin, notre experte en loisirs pour les couples, les familles ou même les enfants. Et c'est ça, je crois, hein, ce matin, Soizic. Vous êtes allé faire un petit tour dans les cours de récréation. Et qu'est-ce que vous avez vu?
Les nouvelles tendances des cours de récréation, les nouveaux jouets à la mode.
Ah, génial.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui est encore là?
Très bien. Bon, bah merci. Soizic, on a hâte de retourner un peu en enfance avec vous. Et je pense d'ailleurs, Julia, que les jeux d'aujourd'hui n'ont pas forcément rien à voir quelque chose avec ce que nous
vous jouiez pratiquait. À quoi,
moi, c'était l'élastique.
Ah, moi, pas du tout, la marelle.
Bon, bah,
je suis pas d'accord avec vous.
Vous n'êtes pas d'accord. Bon, maintenant, je me tourne vers le dernier arrivé dans cette émission. C'est vous, Édouard Dutour. Bonjour.
Bonjour les filles, j'avais coutume de dire ça il y a quelques années.
Voilà.
Alors j'ai envie de dire pareil, bonjour les filles et bien sûr messieurs qui nous écoutez.
Bon, je vous présente rapidement, vous êtes journaliste pour le magazine Elle et donc on va parler d'une mode masculine avec vous, c'est ça?
Tout à fait, alors pour inaugurer cette chronique qui va décrypter les tendances, hein, des tendances qui parfois peuvent nous rendre la vie plus jolie ou pas, selon, j'ai choisi de parler de quelque chose d'un peu étrange, de pratique en tout cas, et en tout cas follement à la mode, c'est le pantalon de jogging moulant.
Wow.
Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, c'est un jogging qui se porte près du corps, il fait son grand retour dans les vestiaires des adolescents. Si vous avez des garçons à la maison, c'est surtout chez les garçons, hein, vous avez sûrement constaté cette nouvelle silhouette qui fait florès à la sortie des collèges, des lycées. Attention, aucun snobisme, hein, que vous habitiez Paris, Marseille ou Dijon, impossible d'y échapper.
Édouard, il faut que je vous dise, j'étais hier dans un grand magasin parisien, j'ai acheté pour mon fils de 15 ans un jogging près du corps.
Ben
donc on y est, mais ça vient d'où cette tendance?
Alors en fait, il faut savoir que la mode est un éternel recommencement, on peut le voir parfois autour de vous, quand vous vous habillez, on met des choses qu'on ne mettait plus à 20 ans et qu'on remet.
Ils vous regardent beaucoup, hein, je sais pas, je vois ça.
Il y a toujours une tendance qui peut en cacher une autre. Alors, début 2000, on slimait, on appelait ça slim de l'anglais, tous nos jeans qu'on enfilait aux chausse-pieds. Hein, ça venait un peu du designer Eddie Slimane qui avait fait cette silhouette très rock'n'roll, puis c'est arrivé jusque dans les grands magasins, etc. Ça s'est popularisé. Après, il y a eu les années baggy XXL, où évidemment, grand dame de leurs parents, les baggy, les pantalons tombés sur les fesses,
on voit les caleçons
des adolescents. Et voici donc que les garçons ont décidé de retrouver du swag, comme ils disent, sous l'influence des rappeurs qui ont remonté leurs culottes et des footballeurs stars qui ne portent plus que ce jogging moulant, au moins ajusté, si ce n'est moulant, sauf s'ils sont sur la pelouse d'un match ou sur le pont d'un yacht.
Bon, je sais pas si je vais me laisser tenter tout de suite, mais ça concerne que les garçons, ce truc-là, ou bien les filles aussi?
Ce qui est intéressant, dans un article paru dans Libération à la fin de l'été, il y a un drôle de phénomène qu'on peut comprendre. C'est qu'en fait, les filles portent des vêtements de plus en plus amples. Vous voyez, par exemple, la chanteuse Angèle, les
chemises XXL.
Voilà, les filles que nos filles aiment le plus regarder. Elles apportent des vêtements amples et les garçons de plus en plus près du corps. Pourquoi ? Parce que le moulant ne serait plus l'antithèse de la virilité. Mmh. Parce que vous savez comment ça se passe chez les garçons. On a toujours cette petite question de où ça se passe au niveau du zizi.
Oui, mais alors là, ça moule.
Là, ça se voit. Bon, bah, oui. Pour le coup, effectivement, on apprend aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce look comme ça de pantalon ajusté, il s'accompagne souvent d'une coupe de cheveux longs tirés en col de cheval qui va avec. Donc, si un jour, vous voyez votre fils sortir comme ça de sa chambre,
c'est normal.
C'est tendance. Juste à la mode. Voilà.
Bah oui.
Et puis, à la fois, ça peut avoir une certaine tenue, moi, je trouve. Parce
moi,
que
je suis d'accord.
C'est vrai que souligner une silhouette, avoir les cheveux attachés propres, si possible, on a connu pire dans notre adolescence.
Il
nous, on était graves,
je crois. Vous avez raison. Il me semble que Zlatan, il est un peu comme ça. Les cheveux un peu longs, le jogging ajusté, tout ça.
Zlatan, il a tout bon, tout le temps.
Il a toujours tout bon.
Est-ce que Messi porte le jogging moulant?
On surveillera.
Je pense que si.
Ah bon? À vérifier. Alors,
évidemment, ça pose des questions.
De pudeur, non? Parce que quand ça moule,
rappelez-vous le crop top. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, le crop top, c'est un t-shirt moulant. Avec très près du corps et très haut au-dessus du nombril, qui a fait un peu polémique dans la sphère politique. On se rappelle de Macron, notamment dans une interview dans Elle, qui avait dit qu'il était plutôt tenu correct et exigé pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est toujours au corps des femmes qu'on s'en prend, en fait. On dit toujours, les filles, elles sont comme ci, pas assez comme ça. La mini-jupe, le crop top. Là, il y a une question qui se pose quand même, parce que ce jogging, quand il est bien bien près du corps, on va pas se mentir, ça moule les fesses, ça moule les parties, comme on dit, hein. On voit toute la salle des fêtes. Et est-ce que quand on est devant, en classe, au tableau, ça pose pas des questions de pudeur ou de... Voilà. Bon, moi je crois pas, je crois que chaque adolescence a ses amusements. Nous, on avait des jeans déchirés.
Oui, oui, il faut être un petit peu plus cool
ils ont des pantalons moulants.
En tant que parent. Merci beaucoup Edouard, on vous retrouve très bientôt pour d'autres tendances, mais restez encore un peu avec nous parce que ce qui va suivre va peut-être vous faire replonger vous aussi en enfance.
Ah bah
alors
oui.
C'est à vous Soazic Belin, ça a donné quoi votre immersion dans les cours de récré version 2021?
Bah, la cour de récré, vous vous souvenez, cette atmosphère assez particulière, ces bruits d'éclats de joie, de rire, ces confidences que l'on se chuchote à l'oreille, ces bagarres parce que ça fait aussi partie du jeu, ces chansons fredonnées en cadence accompagnées de claquements de mains et ces jeux. Parce que vous vous souvenez des jeux, vous en parliez tout à l'heure, la marelle, il me semble, l'élastique.
Voilà.
Et parce qu'un simple jeu peut devenir le jeu star, celui de tous les enfants, et que la plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi. Même si aujourd'hui, l'un des coupables est tout trouvé, le réseau social TikTok. J'ai fait une petite immersion donc en cours de récréation, il est 11h, la cloche sonne. Le moment tant attendu est arrivé, il va falloir dégainer le nouveau jeu à la mode. Mais quel est celui qui fait fureur en cette rentrée 2021? Après le Handspinner, les POG, les billes, enfin on remonte un petit peu le temps et ça ne nous rajeunit pas. Le jeu qui cartonne, c'est... le Pop-It! Tout à fait, le voici, le voilà.
Il est là.
Le Pop-It, aussi surnommé Pop Bubble, Bubble Pop, Go Pop, on pourrait s'y perdre. Mais certains, que vous soyez parents ou pas, vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'ai demandé à Nora de nous dire ce que c'était que ce Pop-It.
Un Pop-It, c'est un jouet en silicone. Il y en a de plein de formes. Dessus, il y a comme des petites bulles. Et pour y jouer, il faut jouer à deux. Chacun son tour. On va éclater une, deux ou trois bulles. Et c'est celui qui appuie sur la dernière qui a perdu.
Vous connaissez ça, Julia, ou pas? Moi, j'en ai en forme de cœur, en forme de sirène, en forme
fille,
de licorne. Voilà.
Au toucher, c'est redoutable.
Ah oui,
même.
Vous avez essayé. Moi, je vous avoue, je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, il paraît que ce jeu était au départ utilisé par les orthophonistes.
Tout
Soazic,
à fait. C'est un des jeux qui a été détourné de son rôle initial, un peu comme l'était le Handspinner. Et il est rapidement devenu le roi de la cour de récréation, avec un nombre de plus en plus important de règles qui sont disponibles sur TikTok et sur YouTube, et des magasins de jouets qui se retrouvent dévalisés. On écoute le monsieur de la grande récré.
C'est un produit qui figure dans notre top vente en volume depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour rappel, le produit est apparu sur le marché français fin mai, début juin. Et depuis, l'offre s'est complètement renouvelée, car on en trouve de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Le buzz continue et c'est une tendance qui devient maintenant un phénomène de collection, car les enfants se mettent maintenant à les collectionner du fait du prix relativement accessible. Hein, le prix moyen est aux alentours de 5 euros.
Mm-hmm. Je l'ai payé 8 euros.
Vous êtes fait avoir.
Voilà. Un objet de collection.
On peut le porter avec le jogging moulant.
Oui,
ou
mais sur la tête dans ce cas.
On peut mixer les deux dans la même cour d'école.
C'est ça. Mais ça, c'est plutôt pour les filles. Excusez-moi, j'ai une vraie question.
Non, les filles et garçons.
Ah oui, c'est unisexe.
Mon fils en a un en couleur de l'OM.
Et ça devient justement des objets de collection. C'est ça qui fait frémir les cours de récréation. Il y en a dans toutes les couleurs, toutes les formes, comme il le disait. Depuis la nuit des temps, c'est la collection en fait qui fait frémir les enfants et les plus grands. C'était déjà le cas avec nos cartes Panini. C'était le cas des cartes Pokémon et nous en reparlerons. Et c'est le cas aussi du phénomène LOL, ces poupées avec une grosse tête que l'on retrouve cachée dans des œufs qui rappellent l'effet Kinder Surprise. Alors comme vous vous en doutez, les jeux collectifs font toujours la joie des enfants, et c'est Charlotte qui nous en parle.
Il y en a un chat bougie. Chat bougie, c'est un chat où si le chat te touche, tu fais comme une petite bougie. Et après, si l'autre te touche, si ce n'est pas le chat, et ben tu es délivré et tu n'es plus une bougie. Du coup, après, c'est comme ça, le chat bougie. Et après, au football, vous le savez tous, c'est quand on joue avec le pied.
Vous le savez tous. Moi, je ne savais pas. Bien dit, Charlotte, le football, vous le savez tous. On joue avec le pied parce que finalement, on en revient toujours aux fondamentaux. Et petit clin d'œil féministe, aujourd'hui, de plus en plus de filles jouent au football.
Mais évidemment, elles ont bien raison.
J'ai pas bien compris le chat bougie. C'était comme nous quand on était petites, vous savez.
Nous, on jouait à chat.
Voilà. Maintenant, c'est le chat bougie. Là, maintenant, quand on vous touche, vous devez vous figer, mais en faisant la chandelle, la bougie.
Bon, c'est un mix entre 1, 2, 3 soleil et le chat, notre vieux chat. Voilà, on
c'est un peu plus acrobatique.
Avec un peu de yoga, non ?
Voilà, c'est ça.
Et toi, vous jouiez à quoi quand vous étiez petit, vous ?
Je dois dire que j'étais assez élastique.
Ah !
Plus que football, mais bon,
vous
la vie est ainsi faite, je ne sais pas.
D'accord, et vous Mélanie, vraiment
moi c'était élastique aussi, puis bon voilà, on jouait à la marelle, ça a dû arriver 2-3 fois, les billes de temps en temps, puis sinon on jouait surtout à raconter des saletés sur les uns et les autres.
Moi j'aimais bien la balle aux prisonniers, j'aimais bien aller en prison.
Et puis les garçons je crois surtout, c'est ça que vous aimiez le plus, non ?
Ah mais j'aimais bien les garçons, vous aussi, non Edouard ?
Ça occupe ?
Non, pas du tout.
On en reparlera.
On en reparlera, ça sera l'objet d'une prochaine émission.
Voilà. Ce que je comprends pas bien en tout cas avec le pop-it, moi c'est pourquoi en avoir plusieurs, parce qu'une fois qu'on en a un pour éclater les bulles, pourquoi ils en veulent 3, 4, 5, 6 ?
Parce qu'il y a plusieurs formes, mais qu'on a envie d'avoir la même forme que son camarade. Ou une plus jolie forme. Regardez, moi j'étais très fière d'arriver avec mon pan, hein, finalement.
Oui,
parce que je le trouvais un petit peu original, celui-ci. Parce que les cœurs, les étoiles, finalement, bon, ben voilà.
C'est ça. Allez, on y va tous pour le pan en pop-it.
Mais
alors.
C'est pas très écolo. Hein. C'est du
précisons
made in China, en plastique, emballé dans du plastique. Bon, ouais.
Voilà. Bon, chacun ses choix. Merci beaucoup, Soizic. Merci, merci à vous également, Edouard. On vous retrouve tous les deux très bientôt dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances mode et d'autres conseils, loisirs, jeux et autres plaisirs avec vous, Soizic. En attendant, Julia. Place à la santé et au bien-être.
C'est tout à fait ça Mélanie, dans quelques minutes ce sera notre dossier santé avec un focus sur la santé de nos pieds. Ben, c'est vrai malheureusement on a tendance à les négliger mais justement ici on va vous expliquer comment en prendre soin à la maison, au quotidien et pour en parler nous recevrons le podologue Jamel Bouhabib. On va tenter de prendre notre pied tous ensemble,
oui.
J'étais obligée de la faire. Donc je vous le conseille, restez sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia Vignali, on va prendre soin, on va prendre notre santé à bras le corps et aujourd'hui même à bras le pied. Je ne pense pas que ça se dise du tout, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça Mélanie, puisque dès midi, nous serons accompagnés d'un invité. Aujourd'hui, c'est le podologue Jamel Bouhabib. Il va évidemment nous donner ses meilleurs conseils pour prendre davantage soin de nos pieds. On parlera aussi chaussage. Vous verrez par exemple que porter des baskets, en fait, c'est pas forcément l'idéal pour nos pieds.
Bon, pour le confort, mais pas pour les pieds. Et puis, à 12h20, comme tous les jours, il y aura notre chronique vite fait, très bien fait. Ce petit bonus, quelque part, je dirais, notre dernier bon conseil du jour dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est vous, Cécile Coumeau, qui serez aux commandes. Vous êtes celle qui, chaque semaine, apportait du bien-être aux jeunes de plus de 50 ans qui nous écoutent. Et donc là, votre conseil aujourd'hui, c'est la coloc.
Oui, c'est la cohabitation intergénérationnelle qui séduit de plus en plus les seniors et donc les jeunes. Et vous verrez que ce n'est pas que pour des raisons économiques. La santé et le bien-être sont au premier plan.
Bah merci beaucoup Cécile, on a hâte. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Voilà, on démarre tout de suite la dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé, plus particulièrement aujourd'hui à la santé de nos pieds, les grands oubliés bien souvent, même quand on en prend soin, je crois. Bonjour Jamel Bouhabib.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia.
Bonjour Jamel, vous êtes pédicure podologue et attention, président de l'Union française de la santé du pied. Alors ça me fait ma journée, je trouve ça formidable que ça existe. Avec vous, on va apprendre quels sont les basiques, les astuces pour prendre soin de nos pieds au quotidien. Mais avant ça, il faut quand même prendre conscience qu'on les sollicite de façon hallucinante, hein, ces pieds, quand même tout au long en plus de notre vie.
Oui, absolument. Alors on va rappeler certains fondamentaux. C'est notre mode de transport le plus économique, le plus écologique et avant tout, c'est celui qui va nous permettre de faire 2,5 fois le tour de notre planète sans nous coûter quoi que ce soit.
Dans la vie,
vous imaginez un petit peu, prenez n'importe quel véhicule, lequel vous aura permis de marcher aussi longtemps sans se plaindre, sans avoir à faire des révisions systématiques tous les 3-4 mois, sans prendre de crédit. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, souvent, on se rend compte que nos pieds existent lorsqu'ils nous font souffrir.
Mais oui, justement, j'allais dire.
C'est un petit peu la sonnette d'alarme, finalement.
Des pieds dont la santé se dégrade, même s'ils sont au bout de notre corps, ça peut avoir vraiment, vraiment de graves conséquences sur notre santé. Lesquelles, principalement, pour nous donner une idée?
Alors, le pied, c'est ce qui permet, bien entendu, de se déplacer. C'est ce qui permet la station debout, hein, la bipédie, ce qui nous différencie des animaux. Et bien entendu, lorsqu'on a mal au pied, on va adopter ce qu'on appelle une attitude antalgique, c'est-à-dire que les membres inférieurs, le pied, la cheville, le genou, le bassin, vont se déplacer et adopter des attitudes et des compensations antalgiques.
D'accord.
Donc on va finir par avoir mal, bien entendu, au pied, mais pour une raison tout à fait anodine, hein, vous portez une chaussure qui n'est pas adaptée, ou une chaussure usée, ou un talon trop haut, eh bien vous allez avoir une hyperkératose, une petite irritation, un ongle incarné, une rétraction d'orteil en griffe. On place le pied de travers, le genou va compenser, on va vriller du genou, on va se faire mal à un ménisque, à un ligament croisé. Et bien entendu, c'est tous les compartiments articulaires sous-jacents qui, petit à petit, vont être douloureux. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Lorsque vous êtes dans votre véhicule et que le volant tremble, il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'aller chez votre garagiste en lui disant « Monsieur le garagiste, changez-moi le volant, il tremble. »
C'est vrai.
Forcément, on sait très bien que c'est un problème d'amortisseur ou de pneumatique, en tout cas la liaison au sol. Et on a du mal à le comprendre en ce qui concerne les membres inférieurs.
Alors vous parliez effectivement des ongles à l'instant, mais alors parfois justement le problème avec ces ongles, c'est qu'ils sont mal entretenus et à l'origine de beaucoup de blessures, on verra ça dans quelques instants. Mais déjà pour comprendre les ongles, il faut les couper
des pieds.
Ah oui, des pieds, oui, puisque vous êtes spécialiste du pied.
C'est ça.
Alors, d'une manière générale, je dirais, pour pas avoir trop de problèmes, il faut le faire tous les deux mois et demi.
Ah, je pensais que vous alliez me dire tous les 15 jours.
Non.
C'est pas la peine. C'est bien d'avoir des petites griffes, en fait.
Ah bon,
voilà. Faut le faire tous les mois et demi, tous les deux mois maximum. Il faut le faire avec des objets appropriés, plutôt une pince coupante. Respecter donc une coupe qui va être une coupe droite et surtout ne pas aller dans les angles.
Un petit mot sur la forme de nos pieds, Jamel Bouhabib. Il y a le pied grec, le pied égyptien, mais au final, est-ce que ça a une importance? Est-ce que certains, selon la forme qu'ils ont au bout des jambes, ils ont plus de difficultés à se chausser ou plus de problèmes anatomiques?
Non, ça va alimenter la littérature médicale, mais honnêtement, d'un point de vue structurel, ça n'a pas
aucune
importance. Alors après, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un deuxième orteil qui soit beaucoup plus long que tout le reste, parce que forcément, dans la conception de la chaussure, le deuxième orteil va se mettre en griffe. Mais sinon, ça n'a pas de réelles conséquences.
Bah justement, on parlait de chaussures, on va parler chaussage. Quelle est la chaussure idéale qui ne nuit pas à la santé des pieds? Alors, les talons, je me doute que ce n'est pas idéal, en tout cas, à porter tout le temps. Mais franchement, les baskets, on est confort. On ne peut pas porter des baskets tous les jours.
Alors, on peut porter les baskets pour le confort, justement, mais on ne peut pas porter des baskets au quotidien. Tout simplement, pourquoi? Parce que le pied a besoin d'être soutenu. Alors, vous allez me dire, oui, mais naturellement, le pied est fait pour marcher pieds nus. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, structurellement, notre charpente musculaire, nos aponevroses, nos tendons n'ont plus l'habitude d'être sollicités ainsi. Donc on porte des chaussures, mais les matériaux utilisés pour les baskets, même si aujourd'hui techniquement sont de meilleure qualité, c'est quand même des matériaux synthétiques dans lesquels le pied va transpirer, le pied ne va pas être maintenu. On va avoir des phénomènes de mycose qui vont apparaître. Alors, on est super confort, mais en termes d'hygiène et en termes de soutien plantaire,
c'est limite.
C'est pas l'idéal. Le problème, c'est qu'on le voit dans nos cabinets, aujourd'hui, la première paire de chaussures portées par les tout-petits, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, c'est la paire de baskets.
On achète quoi alors pour les 3 ans, les petits qui commencent à marcher?
Eh bien, plutôt des bonnes chaussures en cuir, plutôt avec un lassage, plutôt avec une semelle antidérapante, suffisamment large pour maintenir le pied dans un espace où les orteils vont pouvoir bouger confortablement.
Et pieds nus, justement, un enfant, c'est pas bien de le laisser les pieds nus, finalement.
C'est très, très bien.
C'est comme ça qu'ils sont mieux. Ouais,
pas à l'école, Mélanie, non, vous savez bien.
Très, très bien.
C'est vrai que c'est pas possible.
Alors, si on chausse l'enfant le plus tard possible, ça c'est un petit peu comme la marche, hein, c'est la course. Hein. On veut le chausser rapidement, on veut qu'il marche rapidement, on veut qu'il parle rapidement. Il faut juste lui laisser le temps. Hein.
Évidemment. Alors, vous parliez de l'hygiène tout à l'heure, justement, pour prendre soin de ses pieds au quotidien. Ça commence, évidemment, dans la douche, les pieds. Est-ce qu'il faut systématiquement bien les laver? Ça, j'imagine que oui. Mais est-ce qu'il faut frotter? Parce que finalement, je suis désolée, mais quand on lave tout le haut, eh bien, le savon dégouline. Donc, on pourrait imaginer que comme ça dégouline...
On les oublie un peu, ça,
c'est
ça
pas à laver. Ils sont mouillés, c'est bon, ou il faut vraiment insister?
Alors, il faut plutôt les laver avec un savon avec pH neutre. Hein, voilà. Après, si on a le temps de prendre une douche confortable, donc on va plutôt les laver avec un gant, hein, ou quelque chose, une brosse, si vraiment on a des difficultés à accéder à l'extrémité de ses pieds. Bien les rincer, effectivement, parce que vous l'avez rappelé, c'est la terminaison dont tout le savon va pas, le savon et le shampoing, en plus, vous oubliez le shampoing, va passer sur les pieds. Une fois qu'on les a bien rincés à l'eau claire...
Le séchage, c'est très important à la fin.
Voilà, rinçage à l'eau claire, rinçage plutôt à l'eau froide ou à l'eau tiède. Et ensuite, vous l'avez dit, Mélanie, c'est l'opération minutieuse qui est le séchage.
Moi, j'enfile toujours mes chaussettes avec les pieds un peu humides, j'avoue. Oh, mais pourquoi c'est pas bien? Parce que ça va macérer, c'est ça? Mais je ne fais pas des pieds, important.
Exactement. Non seulement ça va macérer, mais ça va macérer encore plus parce que non seulement vous avez oublié d'essuyer le pied, mais vous avez complètement zappé les espaces interdigitaux sont
serrés. C'est un temps, la toilette avec vous, c'est long, hein, parce que si on doit déjà les laver pendant un quart d'heure, les sécher pendant 20 minutes, il va falloir se lever beaucoup plus tôt. Hein.
Il faut le temps qu'il faut, mais en tout cas, les choses ne doivent pas être faites dans la précipitation, et notamment en matière d'hygiène du pied.
Bah évidemment. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des râpes, vous savez, les pierres ponces, tout ça, qu'on voit là dans les magasins, c'est bien ça?
Alors oui, on peut les utiliser, mais pas au quotidien.
Pour
voilà, sous
pas,
la
pas
douche,
avoir de cornes, là.
Ouais, ouais. Non, on les utilise tous les 10 jours, voilà, tous les 10 jours sous la douche. Outre l'opération râpe, hein, ce qui est important après, donc, c'est le séchage, et ensuite l'hydratation.
On hydrate ses pieds.
C'est minimum 3-4 fois dans la semaine.
Ah ouais.
Et petit rappel, vous le faites bien au niveau du visage tous les jours.
Oui, mais ça, j'ai commencé à 35 ans déjà, donc il va falloir faire les pieds maintenant.
À 35 ans au niveau des pieds. Et petit rappel, cette opération d'hydratation n'est pas réservée exclusivement aux femmes.
Ben oui, messieurs, pensez à vos pieds, bien sûr.
Parce qu'on
bien
a
sûr.
Beaucoup d'hommes qui viennent nous voir au cabinet qui nous disent bah, « c'est ma femme qui m'a pris rendez-vous parce qu'elle m'a dit que tu as un problème au niveau de tes pieds, il faut que tu passes de la crème, vous en pensez quoi ?» L'opération hydratation est réservée aux hommes. Et aux femmes.
Bon, ben en se couchant, on n'a qu'à se masser l'un l'autre avec un des excellent pieds, idée. Voilà, la crème, etc. Bon, Jamel Bouabib, ne bougez pas, restez bien les pieds, bien séchés, donc au sol dans ce studio. On n'en a pas encore terminé avec vous, on va passer aux questions de nos auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas, on peut encore en prendre une ou deux, donc vous pouvez y aller via Twitter sur le hashtag Europe 1 ou encore sur notre répondeur au 3921. A tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio avec Mélanie Gomez. Nous sommes dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et surtout à la santé de nos pieds ce midi. Ces grands oubliés de notre santé, justement, on en parle avec vous, Jamel Bouabib. Je rappelle que vous êtes pédicure-podologue et présidente de l'Union française de la santé du pied.
Alors Julia, on va passer tout de suite, on l'a dit, aux questions qu'on a déjà reçues pour notre invité Jamel. On a déjà celle-ci de Corentin dans les Yvelines qui demande si c'est grave d'avoir les ongles des pieds tous trier si c'est un signe de mauvaise santé des pieds.
Alors, est-ce que c'est grave? C'est pas mortel. Après, il y a le côté inesthétique.
Voilà,
il y a le côté inesthétique de la chose. Mmh. Certains peuvent être gênés d'avoir des ongles qui sont pas beaux.
Mais strié, c'est une maladie ou ça peut être naturellement strié?
Ça peut être naturellement strié. Ça peut être dû à des micro-traumatismes qui peuvent être liés à un chaussage inadapté, à des sports traumatisants.
Ça peut pas être la vieillesse, on se ride pas des ongles peut-être?
Alors enfin, on peut avoir des conséquences par rapport à la vieillesse sur les ongles, mais souvent c'est ou des mycoses ou ce qu'on appelle des onychosies, c'est-à-dire des épaississements pathologiques de la lame alvéole. Voilà, mais des ongles striés, voilà, c'est plutôt le côté inesthétique de la chose. Ça peut être aussi des pathologies comme l'eczéma, ça peut être le
sur
psoriasis.
Sur les ongles, mais oui, bien sûr.
Eczéma, psoriasis ou mycose.
Donc à vérifier quand même.
Voilà,
alors,
vérifier. Hein.
Je vous rappelle que c'est le moment justement qu'on vous donne pour poser toutes les questions dans Bienfait pour vous. Et bien justement, Nathalie nous a posé une question qu'elle a laissée sur notre répondeur le 39-21. Alors écoutez bien, elle dit qu'elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants, de la maison et en plus de ses pieds. Elle demande, même si elle n'a aucun problème particulier, si elle a le droit, elle, d'aller chez un pédicure, juste pour contrôler, pour montrer et voir si tout va bien. Elle a peut-être un durillon, dit-elle, mais est-ce que c'est grave ou pas? Enfin, en gros, est-ce qu'on peut aller chez un
pédicure pour le plaisir?
Voilà, voilà. C'est ça. Juste pour vérifier.
Ah, mais rien ne vous empêche de, bien entendu, prendre au moins une fois par an, d'ailleurs, on le recommande une fois par an, un rendez-vous chez un pédicure podologue.
Moi, j'y vais deux fois par an.
Et bah, super. Ouais,
et même
j'adore.
Si vous n'avez pas de problème,
non, ils me, voilà, me coupent bien les ongles, tout
ouais,
ça, ils font
ça.
Les.
Ah,
et puis,
mais j'ai compris une fois pour chaque pied, en fait, c'est ça?
Non, j'y vais pour les
et
deux.
Et puis, ça vous permet de faire un bilan, même si vous n'avez rien, effectivement. Hein. C'est un petit peu comme la vue, c'est comme la dentition. On vous conseille chaque année de contrôler. Eh bien, on vous conseille également de contrôler de manière préventive que vos appuis se présentent bien, qu'il n'y ait pas de déformation. On en profite pour vous donner des conseils d'hygiène, des conseils de chaussage. Mmh. Regardez la coupe des ongles si elle est adaptée et vous donner éventuellement des traitements et des conseils qui vont vous permettre de continuer à marcher. Puisque je le rappelle, le but de tout ça, finalement, c'est de conserver l'autonomie de la marche et de pouvoir être indépendant le plus tard possible.
D'arrêter de vivre le jour où on arrêtera en marchant.
Exactement.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle la désociabilisation chez les seniors. Mm. Je vous mets au défi. Vous prenez un senior qui sort tous les jours, qui va faire ses courses et qui rentre à la maison. Et le même senior qui a des problèmes de pied, qui ne sort plus de sa maison, c'est deux personnes différentes.
Évidemment. Hein.
Alors on a ce message sur Twitter de Stéphanie qui revient sur ce que vous avez dit concernant les chaussures. Elle ne porte jamais de talons car elle a mal au dos. Désormais, c'est uniquement des ballerines. Mais je crois que vous allez la gronder, non?
Alors la gronder, non, parce que je ne connais pas la hauteur de ces ballerines, même si je la devine. Mais c'est vrai que la ballerine c'est
plate,
pas le
là,
chaussage idéal. Chez la femme, en général, pour respecter la forme du dos, la cambrure et éviter des pathologies au niveau du genou, on conseille quand même un talon de 3 cm, 3 cm et demi. Trop haut, ce n'est pas bon, mais trop plat, bah, c'est pas bon,
c'est
non,
pas
plus.
Bon non plus. Ce que j'ai au pied, sur ceux qui le voient sur europe.fr, il y a au moins 10 cm
alors,
là, non, c'est pas bon du tout.
Julien,
ouais, 12 au moins. Ouais.
Très féminine, moi j'adore ce type de chaussage dans la rue. Ouais. C'est mon point de vue. Après, d'un point de vue santé, c'est un petit peu moins conseillé. Beaucoup trop haute.
C'est pour ça que Julia pue des pieds ou...
Alors justement, je voulais parler de ça.
Je ne suis pas assez proche pour vous le confirmer.
Non, mais je ne pense pas. Mais peut-être qu'on ne se sent pas soi-même. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà senti
c'était
des odeurs.
Il paraît qu'on s'habitue à toutes les odeurs.
Ah oui, c'est vrai. Bah, les siennes, c'est plus facile de s'y habituer. Justement, il y a des odeurs insupportables. Et c'est notre auditrice, Sylvaine, qui a laissé un message sur le répondeur au 3921. Que conseillez-vous en fait, aux gens qui puent des pieds?
Alors, en préambule, des moyens vraiment très très simples, c'est-à-dire, on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'hygiène. Toujours terminer le bain de pied ou la douche avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux pieds d'être beaucoup plus secs rapidement et de ne pas conserver de l'humidité. On n'enfile pas ses chaussettes et on n'enfile pas ses chaussures vite fait, comme ça, à l'arrache,
ça, c'est pour
dès
toi,
qu'on
Mélanie.
Sort de la douche.
Et après, qu'est-ce qu'on met dedans, surtout? Parce qu'il nous reste peu de temps, Jamel, dites-nous.
Et ensuite, ce qu'on met dedans, donc on va éviter les baskets, on va prendre plutôt des matériaux en cuir, on change de chaussures régulièrement, c'est-à-dire toutes les 48 heures. Les chaussettes, bah, c'est tous les jours, je le rappelle.
Du talc?
Et puis, on n'hésite pas à passer du talc dans ses chaussures pour absorber la transpiration et assécher un petit peu l'épiderme. Et pour les cas les plus extrêmes, à la fin du bain de pied ou de la douche, on n'hésite pas à passer de l'alcool à 70 sur toute la surface plantaire pour favoriser un petit peu la déshydratation.
Eh bien, c'est parfait, c'est noté. J'ai l'ordonnance pour vous, Mélanie. Je l'envoie à votre mari, c'est génial. Merci beaucoup, Jamel.
Merci à vous.
À présent,
je l'avais mérité.
Il est l'heure, il est déjà midi 20. C'est le moment de notre chronique vite fait, très bien fait avec vous, Cécile Coumeau. Je rappelle que vous êtes la quinca, désolé, hein, de l'équipe. On arrive, nous aussi. Et que vous êtes à l'affût de tout ce qui peut intéresser les gens de 50 ans et plus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une forme de colloque qui n'est pas réservée aux jeunes, bien au contraire. La cohabitation intergénérationnelle, en gros des jeunes et des vieux sous le même toit, c'est ça?
Exactement, voilà un bon résumé. Alors pour être plus précis quand même, ce sont donc des seniors qui accueillent des moins de 30 ans chez eux. Alors ça peut être des étudiants ou pas. Hein. Le but de l'opération est double en fait, lutter d'une part contre l'isolement des personnes âgées
et contre le mal logement des jeunes.
Alors Cécile, est-ce qu'il y a des applis pour favoriser ce genre de rencontres ?
Alors presque, enfin pas tout à fait. En fait, ce sont des associations qui sont spécialisées dans la cohabitation donc intergénérationnelle, qui jouent les entremetteuses, si je puis dire. En Ile-de-France, elle s'appelle Paris Solidaire, c'est la première qui s'est créée. C'est elle, ces associations, qui veillent au bon respect de la loi, parce qu'il y en a une quand même qui a été votée en 2018, la loi Élan, qui encadre tout ça. Et elle veille à ce que le jeune, comme le seigneur, ils trouvent leur compte.
C'est le seigneur,
aussi, hein, c'est le seigneur de la maison. Donc on écoute comment ça se passe avec Camille de Toré, qui est directrice de Paris Solidaire.
Alors les seniors, on a un critère d'âge qui est donc des seniors de 60 ans et plus. Et surtout, on veille à ce que ce soit des seniors qui soient soit assez autonomes, soit suffisamment entourés par leurs proches ou par une équipe médicale. Parce que le jeune n'a pas vocation à se substituer à une aide à domicile, par exemple. Donc on ne veut pas mettre le jeune en situation compliquée, ni le senior non plus dans une situation difficile. Donc on est très vigilant par rapport à ça.
Mais dites-moi, Cécile, il y a beaucoup de demandes pour ce type de cohabitation ?
Alors, la formule séduit quand même de plus en plus. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a plus de demandes de la part des jeunes que d'offres de logement de la part des seniors. Alors, pour bien comprendre, j'ai rencontré Marie-Claude, qui a bientôt 85 ans. Elle n'était d'ailleurs pas très chaude, elle, quand ses enfants lui ont parlé de cette possibilité. Voilà ce qu'elle disait à l'époque.
Je ne veux pas qu'on m'aide, je veux tout faire toute seule. Même encore maintenant, je vais jusqu'au bout. Mais ils ont dit, mais il y a des jeunes qui cherchent, ils ne trouvent pas de logement, c'est cher, tout ça. Bon, on peut voir.
Donc vous voyez, finalement, elle s'est laissée, elle s'est laissée tenter. Hein. L'une d'entre elles est même restée 4 ans chez elle. Bref, vous voyez, Marie-Claude, la cohabitation générationnelle, elle est rodée. Aujourd'hui, elle accueille même 2 jeunes femmes dans sa petite maison avec jardin du Val-de-Marne. Il y a Maddy qui a 22 ans. Pour elle, c'était une première, on l'écoute.
J'avais déjà fait des colocs, donc c'est quelque chose que je connaissais déjà avant, mais avec des gens que je connaissais ou des autres jeunes. Et moi, j'avais travaillé en EHPAD. Et en fait, j'ai toujours eu un bon contact avec les anciens, même avec mes grands-parents. Et du coup, je me suis dit, mais ça peut être trop intéressant de vivre avec une senior. Alors, je me suis dit, mais il faut que je tente. Et puis, je verrai bien ce que ça donne. Au pire, ça me plaît pas, l'année prochaine, je change. Mais c'est sûr que le côté économique a joué, mais c'était pas le premier facteur.
Bon, Cécile, j'imagine qu'avant de signer le contrat de cohabitation, des rencontres sont organisées peut-être pour s'assurer quand même qu'ils sont compatibles entre générations, là, pour le coup.
Oui, bien sûr. D'abord, l'association, elle choisit en fonction des profils. Mais le premier rendez-vous, en fait, il se fait sans la présence de qui que ce soit de l'association pour que la rencontre soit finalement la plus naturelle possible. Maddy se souvient très bien de ce moment qu'elle redoutait un petit peu quand même.
Je me suis dit, bon, de toute façon, ça passe ou ça casse. Donc, j'y viens comme je suis, avec mes cheveux, avec mes habits et tout. Comme ça, si elle peut pas me voir en peinture, autant qu'on le sache tout de suite. Et puis, je voyais, mais en fait, je sais pas, ça la faisait juste rire, quoi. Du coup, j'ai dit, mais ah, c'est nickel.
Alors, vous avez peut-être compris la couleur
rouge,
des cheveux,
non,
de Maddy.
C'est pas ça ?
Vous allez voir, c'est un peu original.
Je lui ai dit, quand même, à mon âge, si j'avais peur de cheveux bleus, ce serait grave.
Oh là là, bleu, donc c'était bleu. Et donc,
oui, c'était bleu,
on voit qu'elle
rouge.
Est très ouverte hein, quand même.
Ouais.
Marie-Claude, hein, c'est ça ?
C'est ça, voilà.
Mais manifestement, elles s'entendent très bien. Les enfants de Marie-Claude aussi ont été rassurés ?
Oui, totalement, d'autant que Marie-Claude a fait un infarctus il y a quelques années. Et c'est une de ses colocataires qui était là à l'époque, qui a appelé les secours. Bon, mais au-delà de cette sécurité que représente évidemment la présence de quelqu'un chez Marie-Claude, la cohabitation intergénérationnelle apporte bien d'autres choses. Écoutez.
Ça m'a donné le courage de rester physiquement correcte. Parce que je serais seule, je crois que à mon âge, je me laisserais aller. Parce que j'ai pas un moral complètement de battante, je suis un peu usée, si vous voulez, de ce côté-là. Tandis que les sachants-là, j'essaye toujours d'être coiffée, d'être habillés, de leur faire un bon manger, et puis de blaguer, et puis d'exagérer, et de parler de choses.
On parle vraiment, ouais, c'est vrai qu'on parle vraiment de tout, et du coup, on ne sait jamais sur quoi ça va partir. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord, on dit, c'est pas grave, on reste les deux sur notre position. On s'en fout, on a les deux notre avis. Voilà. Du moment qu'on est dans l'échange, nous, on s'en fout.
Bon, Cécile, concrètement, le jeune, il s'engage à quoi ? Il paye quoi ?
Alors, en fait, il y a 2 formules. L'une où le jeune s'engage à être présent plusieurs soirs par semaine, et là, il ne paye pas plus de 60 euros par mois. Et la deuxième formule, où il paye max 350 euros par mois, et là, aucun engagement.
Merci beaucoup Cécile pour cet éclairage et ces conseils pour ceux qui envisagent peut-être la coloc, même un âge un peu plus avancé que celui des étudiants. Voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr demain à la même heure, dès 11h. Et Julia, tiens, dites-nous, quelle sera notre grande question demain?
Alors demain, Mélanie, notre question sera la suivante. Trouver un appart, une maison en location, est-ce forcément une galère? Alors bien sûr, on va vous livrer clé en main toutes nos solutions. Comment organiser votre recherche? Comment monter le meilleur dossier possible? Ce sera du pratique, ça c'est promis.
Et puis il y aura encore deux nouveaux sujets tendance, de la santé, du bien-être à suivre. Pour le moment, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.